Chapitre 5. Le directeur de l'hôtel était dans ses petits souliers. Il avait en face de lui le colonel Melchett, accompagné du superintendant Harper, de la police du Glenshire et de l'inévitable inspecteur Flemm, fort mécontent de la mainmise obstinée de son chef sur cette affaire. Si le superintendant Harper tendait plutôt à réconforter le quasi larmoyant monsieur Prescott, Melchett restait, lui, partisan de la manière forte. « Inutile de pleurnicher, asséna-t-il sèchement. Cette gosse est morte, étranglée. Estimez-vous heureux qu'elle ne l'ait pas été dans votre hôtel. L'enquête se déroule dans un autre comté. Votre établissement ne sera donc que très peu concerné. Mais certaines investigations doivent être menées, et le plus tôt sera le mieux. Nous agirons avec tact et discrétion, je peux vous l'assurer. Alors cessez de vous lamenter et passons aux choses sérieuses. Que savez-vous au juste sur cette fille ?
D'elle, je ne savais rien, rien du tout. C'est Josie qui l'a amenée ici.
Et Josie travaille chez vous depuis longtemps ?
2 ans, non, 3.
Vous en êtes content ?
Oui, c'est une brave fille, gentille, compétente. Elle s'entend bien avec les gens, elle aplanit les différends. Le bridge est un jeu qui excite les passions, vous savez.
Melchett approuva de la tête. Sa femme y était aussi acharnée que nullissime.
Josie est parfaite pour calmer les esprits,
reprit monsieur Prescott.
Elle a la manière, souriante mais ferme, si vous voyez ce que je veux dire.
Melchett hocha de nouveau la tête. Il savait maintenant à quoi Joséphine Turner lui faisait penser. Sous son maquillage et son élégance vestimentaire, il y avait de la gouvernante en elle.
« Elle m'est indispensable, »
poursuivit M. Prescott. Il prit un air catastrophé.
« Quel besoin avait-elle d'aller faire le clown sur des rochers ? Nous avons une jolie plage ici, ça ne lui suffisait pas. Glisser, tomber, se casser la cheville, me faire ça à moi ! Je la paie pour danser, jouer au bridge et distraire le public, pas pour aller se casser la figure dans les rochers. Une danseuse, ça doit faire attention à ses jambes, ne pas prendre de risques. Je n'ai vraiment pas apprécié, c'était injuste pour l'hôtel. »
Melchett interrompit cette diatribe.
« C'est à ce moment-là qu'elle a proposé de faire venir cette fille, sa cousine. »
Prescott confirma d'un air maussade.
Oui, ça me paraissait une bonne idée. D'autant que ça ne me coûtait pas un sou de plus. Elle serait logée et nourrie, mais pour le salaire, à elle de s'entendre avec Josie. Voilà quel était notre arrangement. Cette fille, moi, je ne savais rien sur son compte.
Et finalement, elle a fait l'affaire.
Oh oui, il n'y a rien à lui reprocher. Rien d'apparent, du moins. Elle était très jeune, c'est vrai, elle manquait peut-être un peu de classe pour le niveau de l'établissement, mais elle savait se tenir. Discrète, bonne danseuse, les clients l'aimaient bien.
Jolie. Le visage bleui et gonflé de la victime n'avait en effet guère pu le renseigner sur ce point. Monsieur Prescott réfléchit.
Sans plus. Un peu une tête de fouine, si vous voyez ce que je veux dire. Plutôt quelconque, sans son maquillage. Mais avec, elle arrivait à se rendre très attirante.
Beaucoup de garçons lui tournaient autour.
Je comprends, vous voulez en venir, monsieur,
dit monsieur Prescott, qui commençait à se piquer au jeu.
Personnellement, je n'ai jamais rien vu. Rien de spécial. Il y avait bien un ou deux gaillards dans son sillage, mais ça n'allait pas bien loin. Pas de quoi étrangler quelqu'un. Elle s'entendait bien avec les gens plus âgés aussi. Sa manière enfantine de parler, son allure de bébé les attendrissait.
Monsieur Jefferson, par exemple, demanda le superintendant Harper d'une voix qui semblait refléter toute la mélancolie du monde. Le directeur acquiesça.
Oui, c'est à lui que je pensais. Elle passait beaucoup de temps avec lui et sa famille. Il l'emmenait parfois faire des sorties en voiture. Monsieur Jefferson adore les jeunes gens et se montre très bienveillant à leur égard. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Il est infirme et ne se déplace guère qu'avec son fauteuil roulant.
Mais son grand plaisir est de voir les jeunes gens se distraire. Il les regarde jouer au tennis, se baigner, tout ça. Et il donne des soirées pour eux à l'hôtel. Il aime la jeunesse. Il n'est pas aigri alors qu'il aurait toutes les raisons de l'être. C'est un monsieur très estimé. Quelqu'un de remarquable, à mon humble avis.
Et il s'est intéressé à Rubikine ? Demanda Melchett.
Elle l'amusait, je pense.
Est-ce que sa famille partageait cette affection ?
Ils ont toujours été très gentils avec elle.
Et c'est lui qui a signalé sa disparition à la police, s'enquit Harper. Sa voix avait sonné comme un reproche qui fit immédiatement réagir le directeur.
Mettez-vous à ma place, monsieur Harper. J'étais à 1000 lieues de me douter qu'il se passait quelque chose d'anormal. Monsieur Jefferson est arrivé dans mon bureau, affolé, hagard. Ruby n'avait pas dormi dans sa chambre. Elle n'avait pas exécuté son second numéro de danse la veille au soir. Elle était peut-être partie faire un tour en voiture. Y avait eu un accident, qui sait? Il fallait immédiatement prévenir la police, lancer des recherches. Il était dans tous ses états, et pas question de discuter. Il a appelé le central séance tenante.
Sans consulter mademoiselle Turner.
Ça ne plaisait guère à Josie, je le voyais bien. Elle était très fâchée de toute cette histoire, fâchée contre Ruby, je veux dire. Mais que pouvait-elle y faire?
Il me semble que nous aurions tout intérêt à voir Monsieur Jefferson, décréta Melchett. Pas vrai, Harper? Le superintendant acquiesça. Monsieur Prescott les accompagna jusqu'à la suite de Monsieur Jefferson. Elle était au premier étage et donnait sur la mer.
« Il ne se refuse rien, dites donc, »
lança Melchett.
« Il est riche ?»«
Je crois, oui. On ne lésine sur aucun détail quand il vient ici. Meilleure chambre, menu à la carte, grand vin, toujours ce qu'il y a de mieux. »
Melchett hocha la tête. Monsieur Prescott frappa à la porte.
« Entrez !»
lança une voix féminine, ce que fit le directeur suivi des policiers. Monsieur Prescott se confondit en excuses lorsque la femme qui était assise à côté de la fenêtre tourna la tête dans leur direction.
« Je suis désolé de vous déranger, Madame Jefferson, mais ces messieurs sont de la police. Ils seraient très désireux d'avoir un bref entretien avec Monsieur Jefferson. »
Le colonel Melchett, le superintendant Harper, l'inspecteur Flemm.
Madame Jefferson répondit aux présentations par une inclinaison de la tête. Une femme très quelconque, se dit Melchett au premier abord. Puis, quand il vit le léger sourire qui effleura ses lèvres et qu'il l'entendit parler, il changea d'avis. Elle avait une voix singulièrement agréable, pleine de charme et de beaux yeux noisettes. Ses vêtements étaient sobres, mais non dépourvus de goût. Elle devait avoir, estima-t-il, dans les 35 ans.
« Mon beau-père dort, » dit-elle. « Il n'est pas très solide et cette affaire l'a terriblement secoué. Nous avons dû faire venir le médecin qui lui a donné un sédatif. Mais je sais qu'il tiendra à vous parler dès qu'il sera réveillé. » En attendant, je pourrais peut-être vous être utile. Asseyez-vous donc, messieurs.
Monsieur Prescott était impatient de s'éclipser.
Eh bien,
fit-il au colonel Melchett,
si je ne peux rien faire d'autre pour vous.
Il reçut avec soulagement l'autorisation de se retirer. Lorsqu'il eut refermé la porte derrière lui, l'atmosphère devint plus détendue, plus propice aux échanges. Adélaïde Jefferson avait le pouvoir de mettre les gens à leur aise. De stimuler, sans paraître jamais rien dire d'extraordinaire, la conversation de ses interlocuteurs. Elle trouva tout de suite le ton approprié.
« Cette histoire nous a tous retournés. Nous la voyions souvent, cette pauvre fille, vous savez. Je n'arrive pas à y croire. Mon beau-père est très affecté. Il aimait beaucoup Ruby. »
C'est Monsieur Jefferson, à ce qu'on m'a dit, qui a signalé sa disparition à la police,
lança Melchett. Il était curieux de voir sa réaction. Un frémissement, juste un frémissement, lui sembla effleurer la jeune femme. Contrariété? Inquiétude? Difficile à dire, mais il y avait quelque chose. Et il eut l'impression qu'elle se raidissait comme face à une tâche désagréable avant de répondre.
« C'est exact, » dit-elle. « Avec son invalidité, il se fait vite du souci. Nous avons essayé de le persuader que tout allait bien, qu'il y avait sûrement une explication naturelle et que cette fille n'aimerait peut-être pas qu'on mêle la police à ses affaires. Il a insisté. Et en définitive, » fit-elle avec un petit geste de la main, « c'est lui qui était dans le vrai et nous qui avions tort. »
« À quel point connaissiez-vous Ruby Keene, Madame Jefferson ?»
Elle réfléchit.
« C'est difficile à dire. Mon beau-père adore les jeunes. Il aime en avoir autour de lui. Ruby était un genre nouveau pour lui. Sa façon de papoter l'amusait et l'intéressait. Elle venait souvent se joindre à nous à l'hôtel, et mon beau-père l'emmenait parfois faire des tours en voiture. »
Sa voix restait sur une prudente réserve. Melchett eut l'impression qu'elle ne se livrait pas entièrement.
« Voudriez-vous me dire ce que vous savez des événements d'hier soir ?» demanda-t-il.
« Volontiers, mais je crains que vous n'en tiriez pas grand-chose. Après le dîner, Ruby est venue nous rejoindre au salon. Elle nous a tenu compagnie un bon moment. Les danses avaient commencé qu'elle était encore là. Nous avions prévu de jouer au bridge plus tard, mais nous attendions Marc. Marc Gaskell, je veux dire, mon beau-frère. Celui qui a épousé la fille de Monsieur Jefferson, qui avait des lettres importantes à écrire. Et aussi Josie. Elle allait faire la quatrième.
Cela arrivait souvent ?
Assez, oui. Elle est excellente joueuse, bien sûr, et très sympathique. Mon beau-père est passionné de bridge. Il préfère, quand c'est possible, avoir Josie comme quatrième plutôt que quelqu'un d'étranger. Bien sûr, elle est chargée de s'occuper de toutes les tables et ne peut pas toujours jouer avec nous, mais elle le fait dès qu'elle en a l'occasion. D'ailleurs, dit-elle avec dans les yeux un bref sourire, vu l'argent que mon beau-père laisse à l'hôtel, la direction ne voit aucun inconvénient à ce qu'elle nous favorise un peu.
« Vous l'aimez bien, vous, Josie ?» demanda Melchett.
« Oh oui, elle est toujours de bonne humeur, gaie, assidue à son travail, qu'elle semble faire avec plaisir. Elle est très fine, bien que peu éduquée, ne fait pas de chichi. Elle sait rester naturelle et simple. »
« Poursuivez, je vous en prie, Madame Jefferson. »
« Comme je vous l'ai dit, Josie devait s'occuper des tables de bridge, » et Marc était en train d'écrire, si bien que Ruby est restée à bavarder avec nous un peu plus longtemps que d'habitude. Puis, Josie est arrivée, et Ruby est allée exécuter sa première danse avec Raymond. Lui, c'est le danseur mondain et le professeur de tennis. Elle est revenue ensuite avec nous, juste au moment où Marc nous rejoignait. Puis elle est partie danser avec un jeune homme, tandis que nous quatre commencions notre partie de bridge.
Elle s'arrêta et eut un petit geste d'impuissance.
Voilà. C'est tout ce que je sais. Je l'ai juste entrevue encore une fois en train de danser, mais le bridge est un jeu absorbant et mes yeux ne se sont plus guère portés vers le panneau vitré de la salle de bal. À minuit, Raymond est venu voir Josie. Il était très agité et a demandé où était Ruby. Naturellement, Josie a essayé de le faire taire, mais...
Le superintendant Harper l'interrompit. « Pourquoi, naturellement, Madame Jefferson ?» demanda-t-il de sa voix calme.
« Eh bien... »
Elle hésita. Melchett crut la voir un peu embarrassée.
« Josie... » ne tenait pas à ce qu'on fasse trop de bruit sur l'absence de sa cousine. Elle s'en sentait responsable, dans un sens. Elle a répondu que Ruby était probablement dans sa chambre, qu'elle s'était plainte d'une migraine un peu plus tôt. Je n'y crois pas, d'ailleurs.
Josie a juste dit ça pour trouver une excuse. Raymond est allé téléphoner à la chambre de Ruby, mais il n'a pas dû avoir de réponse parce qu'il est revenu furibond. Il est très soupe aux lèvres, vous savez. Josie est partie avec lui, a essayé de le calmer et a fini par danser à la place de Ruby. Elle a eu du courage, parce qu'il était visible après coup que sa cheville avait souffert. Une fois la danse terminée, elle est revenue et a essayé de rassurer Monsieur Jefferson, qui s'affolait déjà. Nous avons fini par le convaincre de monter se coucher en lui disant que Ruby avait dû partir faire un tour en voiture, avec quelqu'un, et être retardée par une crevaison. Il est allé se coucher inquiet et ce matin, il s'est tout de suite montré agité. Elle s'interrompit. Vous connaissez la suite.
Merci, Madame Jefferson. Je vais maintenant vous demander si vous avez une idée sur la personne qui aurait pu commettre ce crime.
Pas la moindre, répondit-elle aussitôt. Navrée de ne pouvoir vous aider.
Ruby Keene ne vous a jamais fait de confidence, insista-t-il. Elle n'a jamais évoqué une histoire de jalousie, l'existence d'un homme dont elle aurait eu peur, ou avec qui elle aurait été intime.
Adélaïde secoua la tête à chaque question. Elle semblait ne plus rien pouvoir leur dire. Le superintendant Harper suggéra d'avoir un entretien avec le jeune George Bartlett et de revenir voir M. Jefferson plus tard. Le colonel Melchett acquiesça et ils prirent congé. Madame Jefferson leur promit de les faire prévenir dès que son beau-père serait réveillé.
Elle est bien, cette femme, dit le colonel quand ils eurent refermé la porte derrière eux.
« Vraiment très bien, » renchérit Harper.
George Bartlett, adolescent dégingandé à la pomme d'Adam proéminente, avait d'immenses difficultés à exprimer ce qu'il voulait dire. Il paraissait tellement indécis que sa déposition fut des plus laborieuses.
« Dites donc, c'est horrible, vous trouvez pas ? C'est le genre de truc qu'on lit dans les journaux, mais... « On ne croirait jamais que ça arrive vraiment, vous trouvez pas ?»«
Il n'y a hélas pas le moindre doute que ce soit arrivé, monsieur Bartlett, » fit le surintendant.
« Non, non, bien sûr. Mais c'est fou, vous trouvez pas ? Il y a des kilomètres d'ici, en plus, dans une sorte de manoir, très aristocratie terrienne et tout, ça doit faire du bruit dans le voisinage. »
Le colonel Melchett prit les choses en main.
Vous connaissiez bien la victime, monsieur Bartlett ?
Ce dernier parut soudain effarouché.
Pas bien du tout, monsieur, à peine. Si vous voyez ce que je veux dire, une ou deux danses, quelques mots par-ci, par-là, un peu de tennis, vous voyez le topo.
Vous êtes, à ce que je sais, la dernière personne à l'avoir vue vivante la nuit dernière.
Je crois que oui. Affreux, vous trouvez pas ? Parce qu'elle était tout ce qu'il y a de plus vivante quand je l'ai vue. Tout ce qu'il y a de plus vivante.
Quelle heure était-il, monsieur Bartlett?
Vous savez, je fais jamais tellement attention à l'heure. Pas très tard, quoi.
Vous avez dansé avec elle?
Oui, en fait, oui. Mais c'était en début de soirée. Pour vous dire, c'était juste après son exhibition avec le danseur, tenez. Vers les 22h30, 23h, je sais pas trop.
Tant pis pour l'heure. Nous verrons ça. Veuillez nous dire exactement ce qui s'est passé.
Eh ben, on a dansé, quoi. C'est pas que je sois le meilleur des danseurs, mais...
Votre façon de danser ne nous importe guère, monsieur Bartlett.
Le jeune homme regarda le colonel Melchett d'un œil apeuré et bredouilla.
Non, non, bien sûr. Alors, comme je vous disais, on a dansé... On a, comme qui dirait, gigoté en faisant du surplace, si vous préférez. Je lui parlais, mais elle répondait à peine. Elle a même bâillé. Comme je vous disais, je danse pas très bien. Ce qui fait que les filles, elles ont plutôt tendance à se défiler, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a prétendu qu'elle avait mal au crâne. J'ai compris qu'il valait mieux laisser tomber. Au revoir et merci. Et ça a été tout.
Vous ne l'avez pas revue après ?
Elle est montée dans sa chambre.
Et... Elle n'a fait mention de personne ? Une promenade en voiture ? Un rencard avec un petit copain ?
Le colonel avait dû faire un effort pour employer cette expression argotique. Bartlett secoua la tête.
« Pas à moi. Elle est seulement partie. »
dit-il sur un ton penaud.
« Comment vous est-elle parue ? Anxieuse ? Pensive ? Préoccupée ?»
Bartlett réfléchit deux secondes, puis secoua de nouveau la tête.
« Non. Elle avait plutôt l'air de se barber. Elle a bâillé, comme je vous ai dit, rien d'autre. »
« Et vous ? Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Bartlett ?» poursuivit Melchett.
« Hein ?
Qu'est-ce que vous avez fait après que Ruby Keane vous a quitté ?»
George Bartlett le regarda d'un air ahuri. « Voyons, qu'est-ce que j'ai fait ?»«
C'est à vous de nous le dire. »«
Oui, oui, bien sûr. C'est drôlement dur de se rappeler les trucs, vous trouvez pas ? Attendez un peu. » Ça ne m'étonnerait pas que je sois allé boire un verre au bar.
Vous y êtes allé, oui ou non?
Oui, oui, c'est ça. J'ai été boire un verre. Mais ça devrait pas être à ce moment-là. J'ai dans l'idée que je suis sorti me balader, histoire de prendre un peu l'air. Il fait plutôt chaud pour septembre. Dehors, ça va mieux. Oui, c'est ça. Je me suis promené. Et puis, je suis rentré boire un verre. Et puis après, je suis retourné à la salle de bal. Il s'y passait pas grand-chose. J'ai vu... comment s'appelle-t-elle déjà Josie, qui dansait, avec le gars du tennis. Elle était pourtant éclopée, la cheville foulée, un truc comme ça.
Ce qui fixe l'heure de votre retour à minuit. Vous voulez nous faire croire que vous êtes resté une heure dehors à vous promener?
Le temps de boire mon verre aussi. Et puis j'étais un peu perdu dans mes pensées.
Déclaration plus facile à croire qu'aucune des précédentes. « Quelle sorte de pensée ?» demanda sèchement le colonel Melchett.
« Je sais plus. Je pensais à des choses, » répondit-il évasivement.
« Vous avez une voiture, monsieur Bartlett ?»«
Ouais, j'en ai une. » »«
Où était-elle à ce moment-là ? Au garage de l'hôtel ?»«
Non, dans la cour, en fait. » Je m'étais dit que j'irais peut-être bien faire un tour avec.
Peut-être même que vous l'avez fait, ce tour.
Non, non, pas du tout. Je vous jure que non.
Vous n'auriez pas, par hasard, emmené Mademoiselle Keane?
Hé, là! Qu'est-ce que vous insinuez? Encore une fois, je vous jure que non. Parole!
Merci, monsieur Bartlett. Je crois que ce sera tout pour l'instant. Pour l'instant, répéta le colonel Melchett en appuyant bien sur ces mots.
Ils s'éloignèrent, laissant le jeune Bartlett les regarder partir, une expression effarée sur son visage d'ahuri.
« Un bougre d'abruti sans rien dans le crâne !»
commenta Melchett.
« Vous n'êtes pas de mon avis, Harper ?»
Le superintendant Harper secoua la tête.
« On n'est pas au bout de nos peines, » bougonna-t-il plus morose que jamais.